fait, je me rends compte que ça fait 30 ans qu'on est dans l'église, là, en tout cas pour moi, 32 ans, voilà. Plus que 32 ans, presque 40. Mais disons qu'on aimerait vraiment vous remercier avec Eliane du support dans la prière et les finances. Des fois, je me dis, j'ai pas trop envie de le dire, parce que ça fait presque appel d'air, mais j'aimerais vraiment vous remercier pour cette dimension de prière et de finances. Et on voit, c'est vrai que nous, quand on vient dans l'église, on a vraiment l'impression d'être dans la famille, hein. On n'a pas l'impression d'être dehors ni dedans, même si on travaille à Jeunesse en mission. Voilà.
Alors juste pour ceux qui ne savent pas, Denis a découvert le Seigneur dans notre église. Il y a bien longtemps.
Eh oui. En fait, ce matin, je voulais vous partager un message. J'étais dans une rencontre à Lyon il y a quelques mois. Et il y a eu un jeune pasteur de Saint-Julien-en-Genevois, je crois, enfin vers Chambéry, par là-bas. Enfin, c'est plutôt la frontière. Julien, un très bon gars. Et il avait la charge de diriger un temps de louange. Et il a partagé un passage que je voudrais vous partager. Et quand il a partagé ce passage, j'ai eu l'impression que c'est passé sous la trappe, en fait. Et j'ai dit, ce gars-là, il avait quelque chose de prophétique, vraiment, pour les églises. Et j'ai envoyé un email à Julien, j'ai dit, écoute, on était une quarantaine là, et on a zappé ce que tu as partagé. Je pense qu'il y avait quelque chose là qui était vraiment fort. Alors c'est bizarre aussi, j'ai des paroles, Bernard, je peux donner les paroles ou quoi? Jean Didier, t'es là? Ouais, c'est pendant la louange. Nul n'est parfait, mais le Seigneur voulait te dire qu'il veut des hommes comme toi. Et tu es quelqu'un qui va de plus en plus bâtir des ponts entre les relations, entre les ministères. Tu vas abattre des cloisons, tu vas bâtir des ponts. Et tu vas étendre pas seulement ton ministère, mais le ministère des autres, en fait. Et je pense que tu as quelque chose un peu dans la discrétion. Tu vas faire des actes qui vont changer les choses. Tu cherches pas, j'ai l'impression que tu ne cherches pas à être en vue comme ça, mais j'ai l'impression que tu cherches à vraiment servir le corps de Christ, pas seulement l'Église, là, mais c'est comme si tu vas bâtir des ponts autour de toi, dans les relations, avec d'autres ministères, et tu vas créer ce sens de désintéressement. C'est le mot que j'avais pour toi. Tu es quelqu'un qui ne cherche pas ton intérêt, et tu es quelqu'un qui est désintéressé, mais tu cherches à servir le Seigneur. Et le Seigneur va étendre ça encore. Et il va t'utiliser pour créer des passerelles, des ponts avec des ministères, avec des gens, avec des églises. Créer un climat de paix qui est nécessaire aussi pour bâtir le corps de Christ, l'église. J'ai vraiment à cœur de te dire ça. Et le Seigneur cherche des gens comme toi. Il t'a trouvé. Mais il est heureux de ce que tu fais. Vraiment, vraiment. C'est ça que j'avais à cœur. Et j'ai eu vraiment aussi cette image de l'église, là, comme un phare. Un phare très très brillant comme église, hein. Et j'avais le verset Ésaïe 54, 1 et suivant. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, etc. Et j'ai l'impression que l'église va être plus fort. C'est comme vous allez, c'est pas simplement donner un message aux autres églises. C'est comme si vous dites à d'autres églises qui n'enfantent plus. Vous allez comme communiquer une flamme d'espoir à d'autres églises pour enfanter. C'est comme vous allez rétablir le rêve de Dieu pour la région, pour plus que local même. C'est comme si à cause du témoignage de l'Église et de l'histoire de l'Église récente, c'est comme si les gens vont les églises en panne, mortes ou qui n'ont plus de vision, plus de rêve, vont comme réenfanter. Et ils vont se réjouir. Elles étaient stériles, mais c'est comme au travers de votre Église, vous allez communiquer un réenfantement autour. Par différentes actions, peut-être par des paroles, par votre témoignage, différentes choses. Mais c'est comme si ça va être un son de trompette pour les autres églises. C'est un son de trompette. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Ça va être un son très fort pour les autres églises. Et il faut que vous le sortiez de votre cœur. Il ne faut pas que ce soit timide. C'est vraiment une flamme d'espoir. Et vous allez comme aussi lancer ce message. On s'en fout des étiquettes. Ça va être très fort. On s'en fout des étiquettes. Et c'est comme vous allez abattre des cloisons, vous allez comme décloisonner des ministères, et vous allez élever la vision plus haut, et les gens vont se désintéresser de leur propre appel et leur ministère. Mais c'est comme vous allez leur dire, il y a une vision plus haute et plus grande. Ça va être fort, ça va être un cri du cœur, et ça va venir d'église, ça va venir de l'église en tant que telle. Et puis, une chose aussi que je ressentais tout à l'heure, c'était que je crois que le Seigneur veut appeler des hommes dans cette église, et je ne les vois pas forcément vieux, je les vois jeunes. Des jeunes, Dieu les appelle déjà à être des pères. Et je crois que dans l'église, Dieu veut lever des pères, mais dans le sens apostolique. Je pense que cette église-là est appelée à engendrer des jeunes pères apostoliques pour retour. Et j'avais aussi des prophètes. C'est comme si Dieu va construire l'alliance des prophètes et des apôtres à travers cette église. Et les prophètes ont, c'est comme si la vision prophétique pour les prophètes va être élargie dans cette église. Il va y avoir des nourritures, il va y avoir une onction de Dieu. C'est comme des prophètes vont se lever parce qu'ils vont voir que le ministère prophétique est plus large que ce qu'ils pensaient. Ça va comme faire un appel d'air. Mais c'est cette alliance apostolique et prophétique qui va être là. Et il y a des jeunes pères, des jeunes hommes, je pense à des hommes. Vous devez vous lever, vous devez enfanter, vous devez vraiment, le Seigneur vous lève. Je ne pense pas tellement des pères au niveau pastoral, enfin dans le terme relationnel, mais apostolique vraiment. Il va y avoir ça qui sort. Et une dernière chose, il y a les Arméniens ici. Il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a vraiment un message pour vous de la part du Seigneur. Vous avez fait, comment dire, le Seigneur va vous encourager. Vous faites partie de l'Église, hein, mais le Seigneur va vous encourager parce que vous avez fait du bien à l'Église. Vous avez fait du bien. Et c'est comme si je voyais que vous avez répandu de l'huile de pas de guérison, mais de l'huile de bienveillance. C'est comme, sans vous en rendre compte, tout naturellement, vous avez été des frères et sœurs qui avaient au niveau des autres frères et sœurs, été un parfum fraternel. Et ça a fait du bien à l'Église. Et je crois que le Seigneur veut vraiment vous le dire. Vous avez été des bergers pour les frères. Et vous avez créé un climat fraternel. Amen. Vous recevez ? Le texte que je voulais prendre, c'est pour reprendre le texte que le pasteur... Donc c'est ça, vraiment, il va y avoir, c'est comme l'église, bon, c'est pas un secret, hein, et je le dis pas parce que je fais partie d'église, mais cette église-là est une église pour les églises. Ça, c'est une parole vraiment de Dieu. C'est une église pour les églises. Pas parce qu'elle est plus forte, mais c'est une église qui va montrer différents aspects du corps de Christ et du royaume de Dieu. Et cette dimension qui va être accentuée plus fort, cette dimension, cet alliage du fondement de l'Église, les apôtres et les prophètes, il va y avoir comme une nouvelle dimension. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais autant il va y avoir des jeunes hommes qui vont sortir avec ce ministère apostolique, mais il va y avoir aussi comme une restauration, je ne sais pas si une restauration, et un élargissement du ministère prophétique qui va être là. Et c'est cet alliage qui va faire que ça va fonctionner, quoi. Alors le texte que je voulais prendre avec vous, c'était dans Matthieu 22, versets 1 à 14. Merci. Matthieu 22. Je ne fais que répéter ce que mon ami Julien Duby s'appelle, si vous le connaissez, c'est un gars formidable. Ça m'a frappé lorsqu'il a donné ce passage. Je le lis. Et Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya d'autres encore, d'autres serviteurs, disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Alors moi, je vais prendre les sept premiers versets. Cette parabole, en fait, on peut vraiment l'interpréter, en faire une exégèse de vraiment différentes manières. Je pense que j'ai entendu beaucoup de versions différentes sur ce texte, et elles se valent l'une l'autre. Voilà, voilà, on interprète la parole. J'ai la bouche sèche, là. Mais c'est cette invitation à un festin de noces. Et ce qui me frappe dans les sept premiers versets, c'est que, en fait, les gens vont refuser cette invitation. En tout cas, ceux qui sont invités refusent. Et il est dit qu'il y en a un qui va aller à son trafic et l'autre va aller à son champ. Et le roi est irrité. Voilà, il envoie ses troupes. Il fait même périr certaines personnes. En tout cas, certains vont brûler la ville des invités. Et il y a des gens qui ne devaient pas être aux noces et qui, finalement, sont invités. Et je me dis, ça me parle dans le sens qu'on a une invitation royale, et je me demande parfois, et c'est ce que Julien, je répète pas tout ce qu'il a dit, parce que sa méditation était très courte pour finir, mais ça m'a donné à interprétation. Je me dis, mais est-ce que parfois on répond vraiment à cette invitation royale des noces? Est-ce qu'on répond vraiment à ce repas? Est-ce que vraiment on va aller à cette invitation? Et j'aimerais vous poser une question, sortant du texte. Vous savez ce qui s'est passé le 29 juillet 1981? Regardez pas dans vos smartphones. Hein. Vous savez ce qui s'est passé le 29 juillet 1981? Hein. Bien, le 29 juillet 1981, c'était le mariage du prince Charles et de Lady Di. Vous vous souvenez? Et il y avait 750 millions de téléspectateurs qui regardaient ce mariage. C'est énorme, à l'époque en plus, en 81. Alors, bien sûr, les Anglais, en tout cas ceux du Royaume-Uni, on va laisser un peu les clivages et les batailles entre les Écossais et les Anglais, mais le Royaume-Uni était certainement là, c'était un événement à ne pas rater, hein, vous voyez. Et je pense que nous, les Français, on était là, en tout cas ceux qui sont un peu romantiques, à regarder ce mariage qui était fantastique. Et il leur a été exclu à ce moment-là que les gens qui étaient invités, en tout cas le cercle restreint qui était invité, ne viennent pas. On ne peut pas imaginer. Vous êtes déjà marié, ça vous est arrivé. Hein, des fois, on invite des gens, bon, ils ne peuvent pas venir, mais si la famille proche ne vient pas, ce n'est pas très évident, quoi. Et là, il est dit dans ce passage que le royaume de Dieu, il est dit le royaume des cieux est semblable à un roi. Donc, il n'est pas question d'un mariage, on va dire, terrestre. Il est question d'un mariage céleste qui fait marier son fils. Et là, c'est intéressant parce que dans ce passage, on voit qu'il y en a qui vont aller à leur champ et d'autres à leur trafic. Et moi, je vous proposerais ce matin de lever la barre un peu plus haut, peut-être. Vous voyez ? Je me demande si dans ces temps, il y a des moments où le Seigneur touche ou parle, en tout cas, par des messages particuliers, dans des temps particuliers. Et je me demande si ce n'est pas une invitation de réfléchir si nous sommes toujours à cette table de noces ou nous sommes à notre champ ou à notre trafic. Et je crois que l'invitation du Seigneur ce matin, ce serait de dire, mais réfléchissons là où on en est aujourd'hui. Et je peux vous le dire que je me suis posé la question. Et ce qui est assez triste, en fait, c'est que les principaux invités, ceux qui ont reçu, on va dire, une carte de visite avant qu'elles existent, hein, ils n'ont peut-être pas reçu un mail, c'est sûr, mais une carte de visite ou quelque chose, eh bien, ces gens-là, ils se disent, oh, bah, finalement, je vais à mon champ et à mon trafic. Et je pense que dans les temps qu'on vit aujourd'hui, c'est peut-être un appel à l'Église, pas la nôtre seulement, mais nous tous, hein, à passer, à se dire, mais est-ce que je suis en train de faire quelque chose dans mon champ qui peut paraître légitime, ou faire notre trafic qui peut paraître légitime, mais ce n'est pas l'invitation du Seigneur. Ce n'est pas l'invitation du Seigneur. Vous savez, on est un petit peu, souvent, en tant que chrétien, on préfère les fast-foods. Vous savez, ces restaurants qui pullent partout. Hein. Vous avez remarqué les dégâts du fast-food aux États-Unis, en tout cas en termes de santé. Hein. Vous avez regardé des reportages. Moi, je ne suis même pas allé aux États-Unis, bien que je m'y intéresse. Mais quand on voit des reportages, des fois, malheureusement, hein, pour ces chers Américains, on voit des personnes qui sont énormes. Voilà, il y a des... Et je pense qu'on a cette tentation du fast-food spirituel, quelque part. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à ce repas de noces, on peut être vraiment tenté de manger plus vite, plus rapide, et même de penser qu'on va gagner du temps. Mais finalement, les conséquences à terme, ça va être le cholestérol, ça va être de l'hypertension, Et ça va être une baisse de qualité de vie. Et l'interprétation qu'on pourrait se poser, aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans ce fast-food aujourd'hui, en train de faire notre trafic, en train de bricoler notre champ, et est-ce qu'on rate peut-être certaines invitations majeures du Seigneur à aller à ce repas de noces? Et j'espère qu'après, je prendrai des exemples concrets. Et effectivement, ces fast-foods sont plus rapides, mais on mange moins bien, on abîme notre santé, on ne prend pas le temps de développer une relation avec les gens pour finir. C'est moins cher, ça coûte moins, mais finalement, ce n'est pas vraiment intéressant. Ce n'est pas vraiment ce repas de noces qui est vraiment là où le Seigneur nous appelle. Je crois que trop de chrétiens, je voyage un peu quand même, peut-être moins que certains, mais j'ai le privilège de voyager, trop de chrétiens, trop de leaders chrétiens ne s'intéressent qu'à leur fast-food. Trop de personnes ne s'intéressent quelque part qu'à eux-mêmes. J'étais au Togo il y a 3 semaines et j'enseignais sur un thème qui est pourtant légitime, c'est découvrir l'appel de Dieu dans nos vies. Et c'est pourtant vraiment légitime. On voudrait tous découvrir si on est appelé à être évangéliste, etc. Mais je me disais, en fait, cette découverte de notre appel ou d'aller dans des séminaires prophétiques pour recevoir la prophétie qui va comme nous galvaniser ou peut-être nous sécuriser pendant un temps, peut-être que ça peut être du fast-food pour finir. Ça peut être légitime, mais ce n'est pas le repas de noces. Et je me demande si le Seigneur ne cherche pas à rehausser la barre et cherche des hommes et des femmes qui ne cherchent pas à rentrer dans leur ministère, même si c'est juste, et même si le Seigneur veut qu'on rentre dans notre ministère, mais d'être vraiment des personnes qui sont des personnes de transversalité, des personnes qui vont travailler vraiment pour le corps de Christ. Dans notre pastorale, je donne quelques exemples, on a une petite pastorale, je me rappelle, on a vraiment une ambiance, une petite pastorale, on est 15. Hein. On a invité un pasteur d'une fédération d'églises, et on l'a invité plusieurs fois pour qu'il vienne nous rejoindre. Ce serait vraiment bien que tu viennes nous rejoindre à la pastorale. Et il nous a dit non. Il nous a dit que ça ne l'intéressait pas. Alors, c'est son choix, mais on ne l'a jamais vu. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis dit quand même, t'exagères, là, Denis, tu fais un peu, on va dire, comme les politiques disent, la démagogie. Mais je suis quand même étonné de voir dans les églises locales, dans nos missions, dans nos ministères, comme on ne s'intéresse pas assez à ceux qui sont à côté de nous. Ça, je parle pour les leaders chrétiens, ou ceux qui ont des responsabilités. Ou en tant que chrétien, on ne s'intéresse pas plus loin que ce qu'on fait. Et finalement, on ne partage pas peut-être à ce repas de noces qui est un repas délicieux, qui est un repas de convivialité, mais aussi qui est un repas où les gens sont de différentes origines, etc. Et c'est trop dommage d'être invité et d'aller finalement conclure qu'on va aller travailler dans notre champ. J'étais aussi encore une fois au Togo. Le jeune qui dirigeait l'école de formation, où j'ai enseigné dans 2 écoles, il s'appelle Christophe. Il a 30 ans. Il s'occupe pendant 3 mois d'une école de 30 étudiants. C'est un petit gars, il n'est pas grand comme ça. Et quand il m'a introduit, quand je suis venu, il m'a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose, il a dit à la classe. Tu es venu déjà enseigner dans mon école. J'étais venu enseigner dans son école plusieurs années avant au Togo. Et il m'a dit, quand je t'ai vu, toi, français, avec ta peau blanche comme ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous enseigner celui-là encore? Parce que son grand-grand-grand-grand-père avait été battu à mort par les Blancs, celui-là. Et il était dans la classe comme ça, comme une bourrique prêt à exploser avec son stylo. Et il a dit, je ne vais pas pouvoir tenir 2 heures devant ce petit Blanc qui nous fait la leçon. J'espère qu'il ne leur faisait pas la leçon. Et un jour, je ne sais pas par quelle, je ne m'en souviens même pas par quelle opération du Saint-Esprit, c'est là, on peut vraiment le dire, j'ai dit, écoutez, j'ai fait une demande de pardon en tant que Français pour la période de colonisation. Comme ça, ça a duré 1 minute. Et c'est ça qui a fait qu'il est resté dans la classe. Et quand je l'ai retrouvé, il y a 2 semaines, il était leader de cette école et c'est lui qui m'a invité. Et c'est la première chose qu'il a dit lorsque j'étais là. Et j'ai dit, Christophe, tu as osé dépasser le fast-food. Tu as osé prendre ce repas de noces. Mais va plus loin encore. Va plus loin. Va plus loin. La France, il y a eu cette période de colonisation avec l'Afrique. Et c'est vrai, il y a une demande de pardon. Mais n'oublie pas qu'entre vos propres tribus, vous avez vendu vos propres frères. Va plus loin que cela. Prends le repas de noces. Va jusqu'au bout. Et il a dit, c'est vrai. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des dossiers que le Seigneur veut nous inviter à entrer, à prendre bras le corps, où l'Église a un rôle utile. Et c'est des dossiers qui sont chauds. Je vais prendre quelques exemples tout à l'heure. Des dossiers qui sont chauds. Et c'est là que je pense qu'on est appelé à aller plus loin, justement pour ce repas de noces. Je repense encore une fois lorsque Jésus est rentré dans le temple dans Marc 11. Il est rentré dans le temple, il a chassé les vendeurs, il a renversé les tables de vendeurs, il s'est tressé un fouet, ou en tout cas il avait un fouet qui a été tressé, parce que c'est lui qui l'a fait, et il a chassé les vendeurs du temple. Et vous savez pourquoi il l'a fait ? C'est pas parce qu'ils vendaient. C'est parce que ce lieu, là où ils étaient, est un lieu pour prier pour les nations de la terre. Et les gens du temple, les pharisiens, les sadducéens et d'autres, il ne faut pas accuser que c'est... Ils avaient rétréci la bénédiction à eux-mêmes. Ils avaient accepté de manger dans leur fast-food. Ils avaient finalement exclu de leur vie juive à l'époque le privilège et la grâce de prier pour toutes les nations de la terre. Et qu'est-ce que Jésus dira en rentrant dans le temple ? Il va renverser les tables, il va chasser les vendeurs, et il va même ne pas permettre qu'aucune des personnes prenne un objet pour partir, et il va leur dire, n'était-il pas écrit, en citant Ésaïe, dans Ésaïe 57, verset 6, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Ils étaient dans le fast-food. Ils étaient dans le fast-food. Moi, je vous propose un défi. Dans ce sens-là, quand je vais à Jeunesse en mission, je pose souvent une question aux étudiants, qui sont normalement des gens qui sont à Jeunesse en mission pour une période de 6 mois ou plus. Je dis, est-ce que vous priez pour les nations ? Est-ce que pendant votre année, tout seul, hein, pas en réunion d'équipe, pas en réunion de prière, est-ce que vous priez pour les nations ? Et on se rend compte à Jeunesse en mission que les initiatives de prier pour les nations ont énormément rétréci. Et je me souviens qu'un de nos orateurs dans les années 80, Carlo Bugnoli, nous avait défié de prier pour toutes les nations pendant une année, 273 à 280 nations au niveau géopolitique. Notre monde, ça c'est le défi qu'on pourrait se lancer. Nous vivons un monde qui est vraiment fracturé au niveau international. Vraiment fracturé. Interethnique, international. Et l'ennemi lance plusieurs obstacles dans l'Église pour nous empêcher de bâtir des ponts, non seulement dans la prière, mais aussi dans les relations, dans les ministères avec les églises. Un monde fracturé entre les Syriens et les Turcs, entre les Américains et les Kurdes, entre les Français et les Arabes, entre les Russes et les Ukrainiens, entre les Brésiliens et les Français, entre les Arabes algériens et les Kabyles, entre les Kurdes et les Turcs, entre les Noirs et les Blancs. Et aujourd'hui, il y a toute une forme de communication, de démagogie qui nous vole nos initiatives de prier et de bâtir des ponts avec ceux qui ne nous ressemblent pas, ceux qui ne sont pas comme nous. Je vais être invité en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Il y a un frère qui m'a dit, fais attention, hein. Ton président Sarkozy, là, il a bombardé le palais présidentiel. Hein. Ils n'aiment pas les Français là-bas. Et j'ai dit, c'est pour ça qu'on va y aller. Le repas de noces, c'est aussi de se rappeler que nous sommes ambassadeurs de Christ, mais nous sommes aussi ambassadeurs de la nation que nous représentons. Et mes amis, c'est un énorme privilège. Je me rappelle en 2008, j'avais posé la question dans une église, quand le président Bush Junior était président, parce qu'il n'était pas très aimé finalement par les chrétiens européens, protestants. Et c'est vrai que ce n'était pas toujours facile à aimer ce qu'il faisait. Mais j'ai posé la question, est-ce que cette année, quelqu'un a prié pour le président Bush ? Personnellement, hein, ne nous cachons pas dans les réunions de prière. Il n'y avait personne qui avait levé la main, personne. Et peut-être cette invitation aux noces, c'est d'élargir notre vision, c'est de quitter ce fast-food qui va nous faire crever de cholestérol et d'hypertension, et de dire, Seigneur, j'avais la carte d'invitation. Tu m'as demandé des choses plus nobles. Tu m'as demandé à entrer dans des choses plus hautes en tant qu'individu, en tant que communautaire. Tu m'as demandé à aller plus loin que mes murs, les murs de ma nation, les murs de mon ethnicité, les murs ecclésiaux, les murs culturels, et de bâtir des ponts avec les non-chrétiens. De bâtir des ponts avec ceux qui ne sont pas chrétiens, avec les autres églises, avec les autres personnes. Et il y a des obstacles. Et je pense en tant que Français, En tant que Français aujourd'hui, nous avons vraiment des obstacles. Qu'allons-nous faire avec les musulmans qui sont autour de nous? Comment allons-nous bâtir avec le monde musulman et le monde arabe? Et je me rappelle d'un homme, je ne sais pas si vous l'avez connu, il s'appelle Ismaël Sadok. C'était un pasteur dans l'église à Marseille, l'église de Philadelphie. Il est mort il y a peu de temps. C'était vraiment un prophète. Et il dénonçait dans l'église de Jésus-Christ le racisme qui y régnait. Le racisme dans les églises évangéliques charismatiques. Et mes amis, nous devons amèrement nous repentir de cela et nous devons travailler à cela, véritablement jusqu'au fond. Nous devons être des ambassadeurs. Et là où les politiques, là où n'importe qui crée des clivages entre les noirs et les blancs, entre les arabes et les musulmans, entre les arabes et les chrétiens, entre tout ça, même les lobbies qui veulent continuer ça, qui veulent nous entraîner là-dedans. Et vous savez comment on sait qu'une église évangélique charismatique, elle est raciste? C'est pas pendant les cultes, c'est autour des tables lorsqu'on mange. Ah, tu sais, hein, dans mon quartier, hein. Alors, je suis chrétien, mais mes amis, nous ne pouvons pas vivre ça. Nous sommes appelés à prendre ce repas de noces. Nous sommes appelés à quelque chose de digne et de plus haut. Et il y a beaucoup d'obstacles, c'est vrai, mais nous devons le faire. Pourquoi? Parce que Jésus le dit. Et parce que lorsque Jésus était dans le temple, c'est ce qu'il a dit aux pharisiens et aux sadducéens. Eh les amis, il leur a dit en d'autres termes, vous êtes devenus carrément fermés, vous êtes devenus un club fermé et vous n'avez plus de relation avec ceux, seulement avec ceux qui vous ressemblent. Plus de relation avec les Romains, plus de relation avec les Samaritains, jugeant les prostituées, étant sur la lettre et la loi. Mes amis, c'est le repas de noces que nous devons prendre. Et peut-être que nous devons vraiment réfléchir pendant cette semaine. Seigneur, je dois peut-être me laver les pieds de ces vieilles serviettes papier qu'on donne et prendre vraiment les serviettes que le Seigneur nous donne. Un appel à bâtir des ponts dans un monde qui devient de plus en plus fracturé et à mon avis ça va continuer. Un appel aussi à véritablement aller vers les autres églises, aller vers les autres ministères. Je suis frappé quand même, hein. Des fois je vais dans des pastorales, alors moi je ne suis pas tellement quelqu'un de connu, hein. Je peux vous dire pour rassembler si quelqu'un... Vous allez dire, ah, Denis Drigeau, tu connais, il y a beaucoup qui disent non. Hein. Mais ce que j'aime bien faire dans les pastorales, c'est aller saluer les gens que j'ai vus la fois d'avant. Mais je suis frappé comment parfois les gens, je les regarde s'asseoir, les pasteurs, les leaders de missions comme moi ou d'autres, ils ne saluent pas. Ils ne saluent pas parce qu'on est dans notre monde, on est dans notre tupperware quelque part. Et c'est un peu humiliant quelque part de se dire, je vais aller saluer l'autre, surtout quand tu n'es pas connu. Hé hey, frère, la dernière fois, tu te souviens de moi? Ah non? Bon, j'avais changé aussi, c'est vrai. Comment tu vas? Je me rappelle, je connais un mouvement d'implantation d'église, là, ils ont changé de nom. Le pasteur, il est super. Puis un jour, il dit, alors, comment ça va ton mouvement d'implantation d'église? Il est français, le pasteur. Et puis j'ai dit, ah oui, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Mais il me dit, comment tu sais ça? Et parce que je vais régulièrement sur votre site et je prie pour vous. Et je sais où sont les missionnaires. Mais il dit, tu connais presque la vision de notre mouvement d'église mieux que nous-mêmes. Vous voyez? Et ça parle. Est-ce que nous pouvons faire ça? Nous désintéresser. Un autre défi, c'est peut-être de faire attention, de développer une communication intègre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nos technologies autour de nous, rien contre Facebook ni Twitter, etc., mais sont des défouloirs de poubelles. Vraiment, les amis. Et les chrétiens en font partie. Des pseudo-prophéties... Mes amis, n'entrons pas dans ces combats stériles, n'entrons pas dans ces travaillons en tant que chrétiens à établir, à développer une communication intègre entre nous, et ne pas utiliser, c'est tellement facile ces réseaux sociaux. Je pense aussi qu'il y a des combats stériles qui nous maintiennent dans ces petits restaurants de fast-food. Un des derniers combats qu'on a eu, je pense, qui n'est pas encore fini, c'est toutes ces théologies qui sont arrivées à la mode, vous savez. Paul enseignait sur ces fausses doctrines. Ce n'était pas forcément des fausses doctrines flagrantes, mais elles entraînaient la perte. Et une des choses qu'on a vues ces dernières années émerger, c'était les oppositions entre les structures et les non-structures. Et on est en train d'y revenir, mes amis. On est en train d'y revenir. À gauche ou à droite, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont en perdition, ils sont paumés. Et les gens ont voulu refaire la roue. Et on a oublié que ça fait 2000 ans qu'on essaye de refaire la roue. Et que c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Mes amis, on est appelés à prendre ce repas de noces et peut-être à nous laisser toucher par le Saint-Esprit, peut-être par des choses que je n'ai pas dit, mais de sortir de ce, se barre de comptoir, d'aller plus haut. On est appelé à être digne, parce que Jésus est digne. On est appelé à un repas royal, au repas du Fils avec le Père. Sortons de ces trottoirs, de ces choses qui sont des petits chemins qui valent rien, qui peuvent, mes amis, paraître légitimes. Et j'ai envie de dire, peut-être vous avez envie pour certains d'entrer dans le ministère. Moi, Eliane peut le dire, hein, j'ai honte bien souvent, et encore aujourd'hui, d'avoir cherché la reconnaissance du ministère. Mais je vous propose quelque chose de plus grand. Servons Christ et servons l'Église. Et je vais vous garantir, vous allez rentrer dans votre ministère. Enfin, ça sera accessoire, vous verrez. Mais voyons plus haut, mes amis. Cherchons à retourner vraiment au service du Seigneur. Et peut-être, disons, Seigneur, oh oui, ce repas de noces, il y a beaucoup d'appelés, termine ce texte, et il y a peu d'élus. Je ne suis pas sûr que c'est forcément une question de conversion, mais c'est une question de privilège, de faire partie de l'œuvre de Dieu et de monter à une marche plus haut. Alors, si tu es avec des œillères ecclésiastiques resserrées, enfin, excuse-moi, mais fais l'exploser, quoi. Arrêtons, la vie est trop courte. Ne défends pas un dogme, une théologie, ou un parler en langue, ou je ne sais quoi. C'est pas le moment. Nous sommes appelés à faire de toutes les nations des disciples. Et l'Église de Jésus-Christ est le lieu de sécurité, de développement, de nourriture spirituelle, d'aide fraternelle, et il faut qu'il soit le plus vivant possible et le plus dynamique possible. Et que vous devez en être un acteur. Voyons plus haut, mes amis. Jetons nos tickets de fast-food, même si ce n'est pas cher. Payons le prix d'aller plus haut. Demandons au Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce que j'ai été dans ces petits trucs-là, où c'est bien confortable, où c'est bien sécure, et finalement, je n'ai pas plus loin? Rappelons-nous, il y a plusieurs choses. Cet axe théologique qui est d'une transversalité dans le corps de Christ, et cet axe géographique. Ne permettons pas que notre vision géographique des choses soit rétrécie. C'est le temps, c'est un temps important en ce moment. Il y a une fracture nationale, c'est peut-être le message le plus fort que je vous donne. Il y a des fractures ethniques et nationales. Et l'ennemi se délecte de nous séparer et de bâtir des ponts et des murs. Et l'Église de Jésus-Christ, à cause de son appel, a cet appel international, multiethnique, multiculturel, multisocial. Et nous devons le vivre. Et nous devons le vivre. Amen. On va prier. Seigneur, c'est toi. Tu as dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et Seigneur, te demandons pardon toutes les fois où nous avons essayé de bricoler quelque chose. Nous ne sommes pas rendus compte et ça paraissait même légitime. Et nous nous sommes retrouvés là comme ayant été invités parfois de l'extérieur, nous savons, à ce repas de noces, nous ne savions pas pourquoi nous étions là. Où nous avons surtout peut-être négligé en allant à notre champ ou à notre trafic. Mais Seigneur, pardon pour ça, parce que ce n'est pas juste. Et parce que nous ne sommes pas des mercenaires dans la maison de Dieu. Nous ne sommes même pas des ouvriers dans la maison de Dieu. Mais nous sommes des fils et des filles. Et Seigneur, nous ne sommes pas des moins que rien. Tu nous appelles parce que tu nous aimes. Tu nous appelles amis. Et nous voulons, Seigneur, te demander pardon toutes les fois où nous avons refusé cette exigence d'entrer dans ce repas de noces. Ça nous paraissait trop grand, trop défiant. Mais nous voulons aussi te demander pardon toutes les fois où nous avons accepté le clivage entre les nations, entre les églises, de ne pas permettre que des passerelles se passent. Mais Seigneur, tu nous appelles à bâtir des ponts. Tu nous appelles à faire tomber des murailles. Seigneur, quelles que soient les circonstances, tu nous appelles à être des bâtisseurs d'amour, comme le disait François d'Assise. Et Seigneur Jésus, tu es la pierre angulaire. Seigneur, tu es celui qui bâtit ton Église. Et nous ne voulons pas, Seigneur, être de ceux qui mettons des fondements sur toi qui sont erronés, qui sont faux, qui sont étroits, qui sont réduits. Nous sommes appelés à nous servir notre pays, notre nation. Nous sommes appelés à faire de toutes les nations des disciples. Et en ton nom, Seigneur, nous voulons prier que tu nous montres par ton Saint-Esprit tout ce qui est devenu religieux dans notre vie, tout ce qui nous a empêchés, c'est tout ce qui a fait comme ces gens à l'époque qui vendaient, qui échangeaient dans le temple et qui pensaient que c'était légitime. Seigneur, nous voulons nous-mêmes faire tomber ces tables de changeurs. Nous voulons vous-mêmes évacuer. Nous ne voulons pas que tu viennes, mais nous voulons nous-mêmes, Seigneur, et nous rappeler que ce faire part Nous l'avons toujours dans les mains. Seigneur, nous demandons la grâce, vraiment, d'être un témoignage en tant que personne, mais surtout en tant que communauté, pour les églises, pour la ville, comme nous le faisons. Et Seigneur, tu veux le faire. Seigneur, nous sommes appelés à être une bénédiction pour ce pays. Et Seigneur, d'aller dans l'esprit opposé de ce qui se passe aujourd'hui, Seigneur. Nous ne voulons pas faire de démagogie, nous voulons t'obéir, Seigneur. Nous voulons avancer avec toi, parce que tu es la lumière du monde et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.